toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un couvre-feu pour 20 millions de Français. Le président n'a pas fait dans le détail pour tenter d'enrayer cette deuxième vague. Depuis l'annonce hier soir, les Français sont sonnés. Les restaurateurs, le milieu du spectacle parlent de coups de massue. Les règles entreront donc en vigueur demain à minuit. Pas de dîner à plus de 6 personnes, des sorties autorisées sous condition après 21h, des amendes qui pourront aller jusqu'à 3 750 euros en cas de récidive et des fêtes privées interdites partout en France, comme vient de l'annoncer à l'instant le Premier ministre. Des mesures de restriction qui auraient pu être évitées tonnent les oppositions qui dénoncent un déconfinement raté, alors même que les juges se penchent maintenant sur la gestion de la crise. Des perquisitions ont eu lieu aujourd'hui au domicile d'Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn, entre autres. Alors, les Français vont-ils accepter ces mesures de restriction? Pourquoi le choix d'un couvre-feu? Est-ce le meilleur moyen de contenir cette épidémie? Couvre-feu, colère et perquisition, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Françoise Fressoz, vous êtes éditorialiste politique au Monde qui consacre aujourd'hui un dossier à cette actualité intitulé « Couvre-feu pour 20 millions de Français ». Je cite votre dernier édito, « Le lien social à l'épreuve du Covid ». Nous y reviendrons grandement ce soir. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA, Est-Bourgogne-Rhône-Alpes, qui rassemble plusieurs titres de la presse quotidienne régionale. Bertrand Guidet, vous êtes professeur et chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Anne-Claude Crémieux, enfin, est en liaison avec nous ce soir. Vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes, je le rappelle, membre de l'Académie de médecine. Vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire » aux éditions Lavoisier. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Ma première question est toute simple, Bruno Jeudy. Il n'y avait pas d'autre option que le couvre-feu?
Il y avait d'autres options. Il y avait l'option du reconfinement général, par exemple, qui est l'option ultime. Il y avait sans doute d'autres options qui étaient des reconfinements, j'allais dire, localisés. Peut-être que Paris, peut-être que Lille, ou par quartier. Enfin, on voit bien que même à l'étranger, en Espagne, on a reconfiné partiellement. L'option qui a été choisie, c'est un pari politique. Un pari politique qui consiste justement à ne pas faire le reconfinement. Et expliquer aux Français que le couvre-feu, ce n'est pas justement le reconfinement, qu'on va continuer à travailler, qu'on va aller à l'école, mais qu'évidemment, pour les 9 villes, les 9 grandes villes concernées, dont toute l'Île-de-France, 20 millions, un tiers des Français concernés, pour ces Français-là, évidemment, la vie va être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, entre ceux qui vont devoir télétravailler, certains aiment bien, ceux qui vont devoir rentrer beaucoup plus tôt chez eux. Donc non, il y avait sans doute d'autres solutions, mais la solution choisie par le président est une forme de pari, c'est que les Français vont accepter le couvre-feu parce que c'est un petit peu la dernière station avant le reconfinement.
Sans trahir de secret, avant de commencer l'émission, Bruno Jeudy, vous me disiez que c'est une date qui comptera dans cette gestion de crise-là.
Oui, parce qu'au fond, le président nous avait laissé, lors de l'une de ses interventions après au moment du déconfinement, il nous avait laissé avec la promesse du retour des jours heureux. Donc il y a eu cet été l'impression qu'on était revenu aux jours heureux. Il y a eu un relâchement, pas seulement un relâchement des Français, mais aussi un relâchement des politiques, parce que c'est toujours facile d'incriminer les Français. Je pense que les politiques ont aussi largement sous-estimé les choses. Donc il nous avait laissé avec les jours heureux et on se retrouve quatre mois plus tard avec le couvre-feu et avec un virus qui évidemment a redémarré plus tôt. Alors est-ce qu'on s'y est pris un peu tard? Est-ce qu'on aurait pu éviter? Bon, de toute façon maintenant les chiffres sont implacables. Il fallait prendre des mesures. Emmanuel Macron l'a fait dans une intervention qui était plutôt plus courte, plus lisible et assez, je pense, réussie de ce point de vue-là pour faire passer le message. Maintenant, on verra ce qu'il en sera, si un, ce sera efficace, et d'abord si les Français l'accepteront.
Et le message, Anne-Claude Crémieux, et on va parler de l'acceptation des Français parce que ça va être effectivement un sujet dans les jours qui viennent. Le message, c'était évidemment couvre-feu pour 20 millions de Français. Je rajoute, et c'est important de le dire, que le Premier ministre a annoncé cet après-midi que toutes les fêtes privées, fêtes étudiantes, mariages, étaient interdites dans l'ensemble du territoire à compter de ce week-end. Et l'autre message qu'il a passé aux Français, là, pour le coup, il met les pieds dans le plat et il dit « Cette affaire, cette crise va durer au moins jusqu'à l'été ». Donc, je vous repose la question que j'ai posée à Bruno jeudi. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre choix que le reconfinement, non, que le couvre-feu ?
Moi, je dirais que cette mesure, elle tire les leçons de la crise. La première, c'est que jusqu'à présent, nos autorités sanitaires avaient plutôt tendance à faire des petites mesures, des mesures graduées qui ne devaient pas déclencher la panique, donner l'impression qu'on perdait la main. Et là, au fond, ils ont tiré les leçons des autres pays qui arrivent à maîtriser cette épidémie. C'est-à-dire qu'il faut frapper fort et il faut frapper vite. C'est un des mots de la première ministre de Nouvelle-Zélande. La deuxième chose, c'est que c'est une mesure qui s'adresse au rassemblement privé. Elle est complémentaire parce que c'est justement ces rassemblements qu'on n'arrivait pas à atteindre avec les mesures qui avaient été jusqu'à présent prises. Et enfin, c'est une des rares mesures sur lesquelles on a une documentation scientifique de l'efficacité. Je vous rappelle la publication qui a été faite par l'Institut Pasteur, qui est une très belle publication, et qui montre que cette mesure est efficace en Guyane.
Bertrand Guidet, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de critiques depuis ce matin, ça aussi, hein, c'est nouveau, les critiques s'expriment contrairement au confinement où là il y avait une unité nationale. Hein. Les critiques c'est pourquoi est-ce qu'on applique le couvre-feu alors que les contaminations, que les clusters, c'est dans l'entreprise ou alors dans les lycées ou les collèges?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la vérité des chiffres. 20 000 contaminations par jour. On est au-dessus des États-Unis si on rapporte ça au nombre d'habitants. On sait qu'il y a une inertie du système, c'est-à-dire que les contaminations font les hospitalisations et les admissions en réanimation dans les 15 jours qui suivent. Et donc, évidemment, les projections que l'on a pour fin octobre sont quand même assez inquiétantes. Je rappelle quand même un chiffre pour l'Île-de-France. On nous prévoit 1 000 admissions en réanimation, donc 1 000 lits de réanimation occupés. L'ensemble des lits de réanimation de l'Île-de-France est 1 100. Oui, donc on voit bien le problème. Donc évidemment, il fallait prendre.
Et ça, c'est acquis. On peut plus faire machine arrière
oui,
là-dessus.
C'est acquis. Ça, c'est inscrit. Et ça, cette projection, elle est juste. Par contre, évidemment, après, ça va dépendre de l'application des règles et de la durée de ces décisions. Attends, on pourra en reparler entre un mois, 6 semaines, etc. Mais donc, sur le fait qu'il fallait faire quelque chose vite. Maintenant et vite, ça, c'est incontestable. Après, on peut discuter sur le détail, 21h, 22h, etc. Mais on allait dans le mur. C'est-à-dire
vous discutez sur les détails, certains discutent, pardon, sur les principes. On a entendu Jean-Luc Mélenchon expliquer que c'était, il dit, bienvenue en absurdie. En gros, on sait que les gens se contaminent dans leur bureau et encore une fois, dans parfois les transports, le collège, les lycées, etc. Et on s'en prend, d'une certaine manière, à la sphère privée.
Il y a deux choses. En médecine, on aime bien faire diagnostic et traitement. D'abord, il faut faire le diagnostic. Le diagnostic, on allait dans le mur. C'est-à-dire qu'on allait avec une situation où l'hôpital n'allait pas être capable de faire face à la totalité de la demande. La demande des malades atteints de la Covid et les autres. Parce qu'il y a évidemment tous les autres malades. C'est tout le problème de la déprogrammation oui. avec des pertes de chance pour les malades. Et donc, il fallait absolument faire quelque chose pour préserver l'offre de soins pour l'ensemble des malades qui ont besoin d'être hospitalisés. Oui. Ça, c'était une chose. Après, qu'est-ce qu'il fallait faire et quelles sont les sources de contamination ? Quelles sont les sources de contamination ? Et les sources de contamination, c'est des probabilités statistiques, c'est très simple. Plus vous brassez de personnes, plus vous avez des opportunités de contamination. Donc effectivement, dans un restaurant, quand vous avez une table de 6, que vous êtes à distance les uns des autres, la probabilité est relativement faible. Quand vous êtes dans une fête, un mariage avec 100 personnes qui passent de l'un à l'autre, etc. Voilà. Et donc, si vous êtes dans votre bureau à distance de la personne d'à côté, là on est à distance les uns des autres, on ne porte pas de masque. Donc,
je me fais l'écho des questions peut-être qu'on aura ce soir d'ailleurs, hein, de ce qu'on a beaucoup entendu ce matin comme critique. Il y en a qui disaient, oui, mais alors voilà, on ne pourra plus aller au resto le soir, mais on peut toujours aller à la cantine et se coller les uns et les autres dans le monde professionnel, avec cette idée qu'on a privilégié, au fond, de l'idée de préserver le monde de l'entreprise
oui,
et le travail.
Oui, mais ça, je pense que c'est un choix qui a été assumé. Au fond, si vous n'alliez pas vers le reconfinement total, vous pouviez dire, on isole les personnes âgées, puisque c'est elles les plus vulnérables. Mais là, c'était un coût social extrêmement difficile, parce que vous isoliez des personnes, et en plus, ceux qui ont les moyens de les isoler l'auraient fait, et ceux qui ne peuvent pas l'isoler, ce n'était pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, si vous excluez le reconfinement total, la ligne du gouvernement, ça a été de dire on va privilégier autant que possible la reprise économique. Pourquoi ? Parce que ils se sont aperçus que, au fond, le coût social et économique de cette crise du Covid, elle risquait d'être terrible. Là, on voit la rentrée qui se fait sous le signe des plans sociaux. On voit des restaurateurs, les cafetiers qui ont été jusqu'au bout à essayer de continuer à travailler, parce qu'au fond, le travail, c'est à la fois sauver sa peau, mais c'est aussi être intégré dans la société. Donc, le choix, c'est vraiment, on essaye de maintenir autant que possible l'activité économique. Alors, la difficulté, c'est qu'au fond, dans les zones où il va y avoir ce couvre-feu, les gens ont l'impression que leur vie se résume à ça. C'est-à-dire, on
dépose, trop boulot dodo, c'est ça qu'on entend.
Voilà, on dépose les enfants à l'école, on va travailler et on rentre chez soi. Alors, ça, c'est assez compliqué. Il faut bien s'entendre avec son conjoint, il faut être heureux en famille. Enfin, il y a un tas de... Voilà. Mais en même temps, je veux dire, Et en fait, le message de Macron, c'était de dire, ben, plus on jouera le jeu et moins ça durera longtemps. Parce qu'au fond, c'est la capacité de résilience et la capacité de résister. 8 semaines, je pense que c'est l'objectif qui se fixe, on n'est même pas sûr que ça suffira. Donc, on a envie de dire à tout le monde, jouez le jeu pour que le 1er décembre, on arrête. Quoi.
Ouais, l'idée, c'est de sauver Noël.
Exactement.
Hein,
c'est ça. On a beaucoup entendu l'exécutif depuis l'intervention du président de la République, relayé par les ministres et le Premier ministre à l'instant, s'appuyer beaucoup sur ce qui est fait à l'étranger. On a perçu, peut-être à tort, vous allez me dire, une forme d'agacement de toujours dire les Allemands s'en sortent mieux, les autres s'en sortent mieux, les Italiens, etc. Là, le président s'est beaucoup appuyé sur ce qui s'est fait ailleurs en expliquant qu'on faisait en gros la même chose, notamment que les Allemands qui se retrouvent face à une situation compliquée également.
Oui, ça fait plusieurs jours qu'on entend cette petite musique-là. Hein. On sent qu'il y a eu une séquence de communication très bien préparée au niveau de l'exécutif, où on a laissé filtrer la possibilité de ce couvre-feu, et puis dans les éléments de langage donnés à l'exécutif, il y avait, oui, mais attention, regardez ce qui se passe à l'étranger, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe à Berlin, regardez ce qui se passe à Londres, et puis dans les grandes villes de Grande-Bretagne. Donc on voit bien que l'exécutif essaye de ne pas isoler la France et de dire on est tous dans le même bain. Et le Premier ministre, cet après-midi, lors de sa conférence de presse, a même sorti un graphique avec les courbes des différents pays européens, où on voit qu'effectivement, on est dans la même tendance. Effectivement, l'épidémie circule partout, en France comme ailleurs. C'est très stratégique parce qu'ici, en France, on a le sentiment que l'exécutif est beaucoup plus bousculé que dans les autres pays européens, qu'il y a une acceptation de la classe politique qui est plus difficile, sans doute parce que le président de la République est quelqu'un de très, très présent et d'écrasant dans son rôle en France. Et on essaye, enfin, au niveau de l'exécutif, on essaye de déminer un petit peu tout ça.
Anne-Claude Crémieux, on ne s'en sort pas moins bien que nos voisins.
Non, c'est vrai que les dernières semaines, je dirais, ont été plutôt rassurantes pour nos autorités politiques et sanitaires, puisque, vous savez, on avait beaucoup dit que les Allemands s'en sortaient extrêmement bien et eux-mêmes sont confrontés à une situation d'envolée du nombre de cas. Il ne serait pas complètement étonnant que l'Allemagne en arrive à prendre des décisions qui soient les mêmes que celles qu'a pris Macron, puisqu'elles ne sont pas encore en train d'avoir décidé le couvre-feu, mais elles ont la même ambition, c'est d'arriver à limiter ces fameux rassemblements privés qu'on a du mal à contrôler, parce qu'au fond, ils ne sont pas vraiment visibles et ils ne répondent pas à tout ce qui est législation ou réglementation dans le domaine du travail, dans le domaine du transport. Donc, si on regarde en Angleterre, c'est pareil. Ce qui pose problème pour les autorités, c'est d'arriver à restreindre ces rassemblements privés, parce que c'est là où effectivement la réglementation est la plus difficile à faire appliquer. Et c'est en cela qu'on peut dire que ce couvre-feu est une mesure complémentaire des autres. Évidemment que ça ne se substitue pas à toutes les précautions qui sont prises dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation et des transports.
Juste avant d'aller au premier reportage, cette phrase d'une épidémiologiste s'appelle Mircea Sofonea, qui est citée dans le journal Le Monde cet après-midi et qui dit « c'était la dernière semaine pour réagir ». Vous disiez à l'instant qu'il a fallu agir vite et fort. Visiblement, c'était in extremis et c'était la dernière limite, comme nous le dit cet épidémiologiste. Alors, Jean Castex, je le disais, a serré encore peu plus la vis en début d'après-midi. Désormais, les fêtes privées, mariages, soirées seront interdites partout en France. Le Premier ministre a détaillé les modalités d'application du couvre-feu dans les 9 métropoles concernées. Dérogation amendes, mais aussi mesures d'accompagnement pour des professions qui évoquent déjà un coup de grâce. Magali Lacroze avec Mélanie Nunes et Stéphane Lopez.
Dans un café parisien ce midi, l'ambiance est plutôt morose. De nombreuses questions restent sans réponse chez les restaurateurs depuis l'annonce d'un couvre-feu faite par le président hier soir.
Pour moi, il faudrait fermer. Ça ne sert à rien d'ouvrir et ouvrir pour faire...
Ah, fermer, on a les loyers quand même.
Ah oui, non, mais ça, je sais. Le
comment
problème,
on les paye
ça. Et le problème, c'est ça.
C'est une cata, moi, je me disais pas
oui,
la cata hier.
Par contre...
Ici, 16 salariés sont engagés en CDI. Le gérant réfléchit déjà à des solutions concrètes.
On pourra peut-être faire de la livraison ou du click and collect avant 21h. Pendant le confinement, on avait au moins la chance de pouvoir faire profiter nos employés du chômage partiel et de geler les loyers ou de négocier avec les propriétaires des ajustements pour s'en sortir. Là, avec un couvre-feu, on est obligé de payer les loyers et toutes les locations, alors que les revenus seront divisés sûrement par deux ou trois. Je ne sais pas ce que ça donnera, vraiment pas. On est dans le doute complet, le grand flou.
La même inquiétude, partagée par tous les acteurs de l'hôtellerie et de la culture en Île-de-France et dans 8 métropoles concernées par l'interdiction de circulation de 21h à 6h du matin pendant 6 semaines, dès vendredi minuit.
On doit freiner la diffusion du virus. D'abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend d'où on parle. Mais les plus âgés, les plus vulnérables, les plus précaires. Premier objectif. Deuxièmement, on doit protéger notre système de santé, nos soignants. Et puis ensuite, je parle pour chacun de nos concitoyens qui nous écoutent ce soir. Parce qu'on a entendu ces dernières semaines, parfois certains dire « moi je ne suis pas concerné, ne m'enlevez pas ma liberté si j'ai le droit d'être contaminé ». C'est pas vrai. Parce que nous sommes une nation de citoyens, on est tous liés les uns les autres. Et face à ça, il serait disproportionné de reconfiner le pays. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux.
Là où le couvre-feu s'applique, des attestations dérogatoires professionnelles ou pour raisons médicales seront nécessaires. Dans toute la France, il est désormais recommandé de ne pas se rassembler à plus de 6 personnes dans tous les espaces de vie. Cet après-midi, le Premier ministre et son gouvernement détaillent les règles à venir.
Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites. Tous les restaurants de France appliqueront le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à 6 du nombre de clients par table et l'enregistrement du nom des clients pour faciliter le contact tracing. Dans tous les lieux où vous êtes assis, comme les cinémas, les stades, les cirques ou les salles de conférence, la règle d'un siège sur deux devra s'appliquer.
À droite, les politiques s'inquiètent d'abord pour les 12 000 policiers et gendarmes dédiés au respect du couvre-feu.
Les policiers eux-mêmes disent qu'ils sont déjà épuisés et débordés par la délinquance du quotidien. Et donc, va s'ajouter à eux cette nouvelle mission de devoir contrôler ce couvre-feu. Je pense que nous allons avoir encore d'autres débordements et que les forces de sécurité qui sont déjà violemment attaquées, ça va se poursuivre.
À gauche, c'est la revalorisation des minima sociaux qui interroge. 150 euros en plus pour les bénéficiaires du RSA et des APL, avec 100 euros de plus par enfant. Pas suffisant pour les jeunes, estime Ségolène Royal.
Je pense qu'il faut donner aussi le revenu minimum aux jeunes. Ça me paraît très, très important. Sinon, on aura une délinquance de la misère. Donc, quand j'entends dire qu'il ne faut pas donner trop d'aide sociale parce que ça va démotiver au travail, ce n'est pas vrai. De toute façon, les jeunes n'ont pas de travail, là. Donc, il faut donner le RSA aux jeunes.
Les déplacements entre régions restent autorisés. Les transports en commun, eux aussi, continueront de circuler normalement, notamment en Île-de-France, aux heures de pointe.
Alors ce soir, il y a beaucoup de questions très pratiques qui marquent une forme d'interrogation de la part des Français. Celle-ci qui nous est posée par Jacques, qui habite dans les Landes, pour vous, Anne-Claude Crémieux. Pourquoi 21h ? Une heure de plus aurait permis de sauver les restaurants. Ça, c'est arbitraire.
J'espère que 21h, ça sera la dernière heure décidée, parce que malheureusement, en Guyane, progressivement, ils ont rogné, effectivement, puisque la mesure n'était pas assez efficace, c'est devenu 20h et puis 18h. Donc oui, évidemment que plus tôt la mesure s'applique et plus on espère qu'elle va être efficace en limitant ces rassemblements. Rassemblements qui ont été bien montrés dans la littérature, ces petits rassemblements, et là le président a raison de le souligner, sont réellement ceux qui sont les plus à l'origine de la diffusion du virus. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas ces très grands rassemblements où le port de masque est obligatoire qui sont les plus dangereux, ce sont cette multitude de petits rassemblements.
On est très attentif à ce que dit Anne-Claude Crémieux qui dit en fait c'est 21h, mais ça pourrait être moins, ça pourrait être 18h dans 3 semaines si les mesures ne sont pas appliquées. Est-ce que ça, le président, à votre avis, Bruno Jeudy, l'a à l'esprit ?
Absolument. Le président, quand on lui pose la question sur qu'est-ce qui se passe après le 1er décembre si les mesures ne sont pas suffisantes, alors il se refuse toujours à envisager le reconfinement, mais il envisage un durcissement des mesures. Et effectivement, avancer l'heure du couvre-feu à 20h, 19h, c'est une solution, puisque ça a fonctionné en Guyane. Et encore une fois, l'exécutif n'a de cesse, depuis lundi, où ils essaient de préparer les esprits au couvre-feu, à citer l'exemple de la Guyane, où des mesures, les mesures les plus strictes avaient été appliquées. Il y a eu aussi l'exemple de la Mayenne. Alors, ce n'était pas un couvre-feu ni un reconfinement, mais il y avait aussi une très forte limitation des contacts et des interactions sociales. Donc, là où ça a été fait, ça a plutôt fonctionné. Mais il y a encore un peu de marge de manœuvre pour durcir cette même mesure. Bon, déjà, 20h, ça ne va pas être facile. 21h, ça ne va déjà pas être facile. Si on pense, si les Français qui ont regardé, on sait que les Français qui ont regardé ça hier soir, ils ont dû être extrêmement surpris. Ouais. Et c'est quand même leur vie qui va être impactée et qui va devoir être réorganisée, notamment en Ile-de-France, où on sait que la question des transports est fondamentale, qu'il faut du temps souvent pour retourner chez soi en banlieue, puisque c'est toute l'Ile-de-France. Ce n'est pas seulement Paris. C'est aussi les gens qui habitent en Seine-et-Marne, dans les Yvelines.
Vous parlez de l'Ile-de-France, on en parle beaucoup et peut-être trop souvent pour les gens qui n'habitent pas en Ile-de-France, ça concerne neuf grandes métropoles. Et ce sont des gens qui ont été...
C'est pareil à Lyon, c'est pareil à Lille. Et effectivement, ça va impacter beaucoup leur vie. Et déjà, 21h, c'est déjà pas facile à respecter.
Nathalie Moret. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, le même ressenti à Paris et en Ile-de-France et dans les autres grandes villes. À Lyon, par exemple, à Saint-Étienne, etc., 21h, ça n'a pas la même charge symbolique, j'allais dire. On peut dîner au restaurant assez facilement à Saint-Étienne ou à Lyon à 19h30, alors qu'à Paris, puisqu'on est dans une ville de tertiaire où il y a beaucoup de gens qui terminent plus tard, c'est quand même très difficile pour les restaurants d'avoir un premier service à 21h. Donc c'est vrai que 21h, ça a du sens dans des villes comme Saint-Étienne, comme Lyon, comme Grenoble. Ça a du sens aussi pour les théâtres. À Lyon, par exemple, le Théâtre des Célestins, ils ont déjà avancé leur programmation à 18h30 ou 19h, je ne me souviens plus. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même un semblant de vie. C'est-à-dire que tout ne va pas s'arrêter à 20h. Et la vie va continuer malgré comme ça jusqu'à 21h. Il y a des choses qui vont se passer. Je pense que ça aussi, c'est très important dans l'acceptabilité des gens. À Paris, encore une fois, ça va être plus difficile parce que c'est une beaucoup plus grande région et qu'il y a des temps de transport qui sont beaucoup plus importants.
Au fond, vous mettez le doigt sur la question qui est posée aussi par cette mesure. Et encore une fois, il y a une grande différence par rapport à ce qu'on a vécu collectivement au mois de mars, c'est l'acceptabilité.
C'est l'acceptabilité.
On a entendu beaucoup de colère.
Oui, c'est l'acceptabilité dans la diversité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une mesure uniforme sur tout le territoire. Et donc, du coup, tout le monde se regarde en disant « Mais pourquoi lui, il a le droit de faire ça et moi pas ?» Là, on voit aussi qu'il va y avoir des négociations avec le gouvernement. Là, tout le monde de la culture est en train d'essayer de négocier avec Roselyne Bachelot le fait qu'on puisse aller au spectacle avant 21h, et que si le spectacle se termine vers 20h30, 21h... Une dérogation. Donc on peut imaginer que toute une série de dérogations vont être créées pour rendre cette solution un peu applicable. Donc vous aurez votre attestation, il faudra justifier. Donc c'est ça, c'est l'apprentissage de la diversité dans un pays qui a toujours raisonné de façon nationale
et uniforme. Vous parlez de diversité, la mesure du couvre-feu, elle se passera de la même manière partout dans les 9 métropoles en question.
Il faut qu'on regarde sur les spectacles, là, parce que c'est en train d'être négocié avec le ministre de la Culture. Vous avez vu, elle n'était pas là à côté de Castex cet après-midi, elle était en train de voir le monde de la culture qui essayait de négocier le fait que des spectacles puissent être avancés, mais que les gens puissent rentrer chez eux, y compris après 21h, et ne soient pas arrêtés avec une amende. Mais ce qui est très intéressant, moi, je trouve, dans cette épidémie, c'est qu'on est passé d'une épidémie choc où on menait une guerre éclair avec le confinement, à un mouvement qui va se prolonger. Emmanuel Macron dit au moins jusqu'à l'été. Et donc, est-ce que tout ça va changer en profondeur nos comportements collectifs? On voit que, par exemple, les métropoles attirent beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que beaucoup de gens, maintenant, se sont installés en dehors des métropoles parce que la vie est trop dure. Est-ce qu'on va travailler plus tôt le matin pour pouvoir sortir plutôt l'après-midi, et est-ce que les goûters vont devenir le moment de rassemblement?
Est-ce qu'on va faire des soirées pyjama?
Est-ce qu'on va faire des soirées pyjama? En fait, c'est très intéressant. Et l'acceptabilité, oui, mais ce que je trouve quand même par rapport aux dernières semaines où on a vu même les élus locaux rentrer en résistance, là, j'ai l'impression quand même que les gens ont compris que ça redevenait sérieux et qu'il fallait quand même être... On voit les élus locaux, Anne Hidalgo à Paris, dit attention, ça devient sérieux.
Ça, c'est important de le souligner, peut-être, c'est qu'effectivement, il y a un accompagnement, là, pour le coup, des élus locaux.
Là, on a l'impression, parce que tout le monde se dit, mais si dans trois semaines, les services d'urgence partout explosent, c'est pas gérable, y compris pour un élu local.
Avec la question, vous parliez de l'acceptabilité, il vient la question des sanctions, je le rappelle, au bout de plusieurs infractions, s'il y a récidive, les peines peuvent aller, les amendes peuvent aller jusqu'à 3 750 €. Là, pour le coup, la volonté, c'est de frapper fort, Françoise Frassos, pour montrer qu'il n'y aura pas forcément une grande tolérance.
Oui, parce que l'expérience aussi, ça, c'est ce qui s'est passé à Marseille, c'est-à-dire que quand il y a eu des tolérances sur les restaurants, on s'est aperçu qu'au fond, beaucoup ne respectaient pas. Et donc, il y a eu quand même aussi la volonté du gouvernement de dire, écoutez, on fixe des règles du jeu, mais quand elles sont fixées, il faut les appliquer, sinon, ça nuit à l'ensemble de la collectivité. Et je pense que le message très important d'Emmanuel Macron, c'est de dire, au fond, on est tous embarqués dans le même navire et que si on fait tous des efforts, on s'en sortira plus vite. Et est-ce que ça, c'est audible aujourd'hui? C'est la grande question.
Moi, j'ai une remarque. Il y a un message. C'est-à-dire, effectivement, on prend en compte l'état de l'épidémie en France au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a un message. Couvre-feu,
il a choisi, d'ailleurs, d'utiliser ce mot-là.
C'est énorme comme mot. Couvre-feu, ça renvoie... Enfin, et donc, après, c'est 21h, 22h, 20h. Mais je trouve que le simple fait d'annoncer qu'il y a un couvre-feu et qu'on est vraiment dans une situation sérieuse, je pense que c'est un vrai message à la nation. Après, moi, j'aurais été plutôt pour 22h plutôt que 21h, parce qu'effectivement, dans de très nombreux domaines, ce n'est pas possible. Je veux dire, le spectacle, on en parlait, les restaurants, en particulier à Paris... Beaucoup de restaurateurs disent, moi, je ne peux pas...
Pas sur un service.
C'est pas possible. Mais donc, il y a un premier élément, c'est ce terme de couvre-feu qui, quelque part, témoigne de la gravité de la situation. Puis après, il y a la déclinaison du tout couvre-feu, voilà, quelle ville, quelle heure, etc.
Anne-Claude Crémieux, sur le choix des mots, c'est important parce que ça... on se souvient que le président de la République avait hésité à parler à un moment donné de confinement.
Il n'avait pas prononcé le mot, et cette fois-ci, il l'a prononcé.
Cette fois-ci, il l'a dit. C'est important de passer un message clair.
Moi, je trouve qu'il y a un vrai changement, je dirais. Il y a un vrai changement dans la façon de gérer la crise, et je l'ai dit au départ. C'est vraiment la compréhension qu'au fond, il ne faut pas tout le temps courir derrière le virus, qu'il y a un moment donné où, de toute façon, on va se retrouver dans une situation catastrophique, et on apprend de la première vague, on apprend des autres pays. Il faut reprendre la main, et pour reprendre la main, il faut des mesures assez fortes, et il faut aussi, si on veut que la population adhère, il faut réellement lui montrer le danger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Or, pendant assez longtemps dans cette crise, et en particulier pendant la première vague, on a eu peur des mots et on a eu peur des mesures en disant « attention, il ne faut pas annuler ce match parce que ça va faire peur ».
Alors que là, les choses ont un petit peu changé. Bruno, je dis.
Mais il y a encore quelques semaines, c'est vrai qu'il y a un changement, puisqu'il ne tourne pas autour du pot, il commence par employer le mot « couvre-feu ». C'est un changement parce qu'il y a encore... pas très longtemps, 3-4 semaines, à l'issue d'un conseil de défense, il n'avait pas voulu suivre les recommandations. Alors certes, pas obligé, recommandation du Conseil scientifique qui parlait de décisions difficiles, il n'avait pas voulu à ce moment-là. On attendait des mesures importantes parce que déjà l'épidémie redémarrait. Et là, l'exécutif avait passé son tour. Jean Castex était à la télé pour nous dire « lavez-vous les mains ». Et 10 jours plus tard, Olivier Véran revenait à la télévision pour fermer les bars et restaurants à Marseille sans concertation, ce qui avait provoqué un tollé. Et honnêtement, ça avait été tellement mal fait que Jean Castex, il a dû s'y coller lui-même sur Paris et les autres villes pour que ça se passe mieux. Et là, effectivement, ce qui est, le changement, c'est dans les mots, mais c'est aussi, je trouve, dans la façon dont les élus, quand même, ont été alertés. Quand on regarde ce matin, le maire de Montpellier, les maires des villes, globalement, acceptent. Et c'est quand même un sacré changement. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience collective. Et là, pour le coup, peut-être qu'il y en aura besoin pour que ça fonctionne.
Un petit sondage. 82% des Français pensent qu'il y aura un reconfinement d'ici Noël. Si c'est le cas, ça voudra dire que cette mesure de couvre-feu n'a pas été acceptée. Vous vouliez dire un mot, Anne-Claude Crémieux ?
Oui, il faut se rappeler que cette mesure, c'est-à-dire le couvre-feu, c'est le niveau 4 proposé par le Conseil scientifique, celui que le Conseil scientifique n'a pas retenu dans un premier temps, puisqu'il proposait le niveau 3, en disant le niveau 4, ce sont des mesures fortes, c'est le couvre-feu, ce sont des mesures fortes et contraignantes. Donc là, on voit que presque les autorités sanitaires ont été plus loin que le Conseil scientifique.
Le dernier niveau, c'est le reconfinement, Anne-Claude Crémieux ?
Le reconfinement a été rejeté par tout le monde, en France comme dans les autres pays. L'objectif majeur, c'est d'éviter un reconfinement généralisé. Pour le Conseil scientifique, pour les autorités politiques en France, pour les autorités politiques de tous les pays.
Un mot sur l'une des mesures annoncées hier. En tout cas, je ne sais pas si on peut parler de mesure, une injonction présidentielle, puisqu'on est dans la sphère privée. Le président, repris par le Premier ministre cet après-midi, a expliqué qu'il fallait limiter les rassemblements à 6 personnes, 6 convives en famille. Là, c'est une mesure qui a une légitimation scientifique, Anne-Claude Crémieux. On sait que 6, c'est mieux que 10, j'imagine, mais pourquoi 6 ?
Non, alors, c'est très intéressant parce que ça fait plusieurs semaines que cette mesure a été mise en œuvre en Angleterre. Ça s'appelle « the rule of 6 », la règle des 6, et ça a été insuffisant. Donc, c'est aussi pour bien vous montrer que chaque mesure isolément est insuffisante. C'est l'association de toutes ces mesures qui va faire l'efficacité, on l'espère évidemment, de cette stratégie, qui d'ailleurs, le président l'a rappelé, doit s'associer une fois, et j'espère que le nombre de contaminations aura diminué, à 3000, à de nouveau une stratégie de test et de traçage qui sera plus efficace, parce qu'évidemment à 12 000 voire à 20 000 cas, c'est impossible d'arriver à tracer et à détecter tout le monde.
Alors si la règle des 6 ne fonctionne pas, Anne-Claude Crémieux, on est à la veille des vacances de la Toussaint, comment on fait ?
Comment on fait pour
comment on
partir,
fait pour se rassembler, comment on fait pour se réunir, comment on fait pour se voir en famille? Est-ce qu'il faut renoncer à se voir en famille quand on est plus de 6? Est-ce qu'il faut porter son masque en permanence?
Bien, je crois qu'effectivement, le message est clairement bien passé. Effectivement, il faut limiter malheureusement les réunions familiales. Et l'intérêt de la règle de 6, c'est aussi que 6, c'est évidemment beaucoup plus facile d'observer une distance, voire de porter un masque le plus souvent, sauf évidemment quand on mange que quand on est 12 ou 15. Ouais. Et encore une fois, ce sont ces sommes de petits rassemblements familiaux qui, dans tous les pays, là, tout le monde est d'accord avec ça, on fait le lit de cette deuxième vague.
Plus que le monde de l'entreprise, plus que les transports, plus que l'école, plus que les lycées.
N'oubliez pas que le monde de l'entreprise peut être régulé, le masque peut être obligatoire, on peut demander le télétravail. N'oubliez pas que dans les transports, tout le monde met un masque. Ça, c'était une zone aveugle, au fond, des mesures qui avaient déjà été prises. Encore une fois, il ne faut certainement pas isoler toutes ces mesures. L'espoir, c'est qu'on va les mettre tout en œuvre en même temps.
En même temps. Alors, nous avons choisi d'intituler ce soir cette émission couvre-feu, colère et perquisition. On va venir aux perquisitions dans un instant. Les colères, c'est celle des restaurateurs, c'est celle des gens du monde du spectacle, avec là, pour le coup, un ministre de l'économie qui, de nouveau, aujourd'hui, a annoncé des mesures d'accompagnement pour ces professionnels qui sont exsangues.
Ben, pas d'autre choix, hein. C'est la règle du... Ça, c'est la règle. c'est le quoi qu'il en coûte du début de la première vague, qui évidemment continue avec la deuxième vague, puisque les mesures sont même élargies en fonction des tailles des entreprises, prise en charge du chômage partiel pour les salariés. Donc forcément un gros soutien économique aux commerçants, c'est-à-dire bars et restaurateurs.
Avec élargissement du fonds de solidarité pour les entreprises.
Oui, toutes ces mesures pour un total assez élevé. De mémoire, on est sur plusieurs milliards, je ne sais plus exactement le chiffre.
Au total 460, non ?
Non, mais pour les restaurateurs.
Pour les restaurateurs,
crois que c'est 18 milliards pour ce secteur-là, qui évidemment est en première ligne et va être extrêmement touché, tout comme un peu le secteur de la culture, à moins que Roselyne Bachelot arrive à trouver un compromis. Mais pour ce secteur-là, les mesures sont une question de survie. Et ça ne suffira pas, beaucoup ne se relèveront pas. D'ailleurs, beaucoup de bars n'ont pas rouvert après le confinement.
Mais en tout cas, un tiers des cafés-restaurants qui seraient en danger de disparition.
En tout cas, des nouvelles mesures annoncées cet après-midi par le ministre de l'Économie, donc qui élargit le fonds de solidarité des entreprises et moins de 50 salariés qui ont perdu 50% de leur activité. Exonération de charges à toutes les entreprises fermées administrativement, exonération de charges patronales et aide de 20% pour les cotisations sociales. Et c'est important de le préciser, prêt garanti par l'État, accessible jusqu'au 30 juin 2021. De nouveau, donc, le gouvernement au chevet de ces entreprises qui vont avoir du mal à faire face à ces mesures annoncées hier soir. En tout cas, quelques heures après l'intervention du président, une série de perquisitions a eu lieu, entre autres, au domicile d'Édouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran ou de sa prédécesseure Agnès Buzyn, la conséquence d'une série de plaintes déposées par des soignants, des particuliers, des collectifs contre le gouvernement pour sa gestion de la crise. Cet après-midi, Jean Castex a volé au secours de son ministre de la Santé, aux prises avec la gestion d'une crise historique. Émilien David et Aurélie Saner.
Olivier Véran, Jérôme Salomon, Agnès Buzyn, Édouard Philippe et Sibeth Ndiaye. Cinq acteurs majeurs de la crise sanitaire dans le viseur de la Cour de justice de la République. Dès 6h ce matin, leurs bureaux et domiciles ont été perquisitionnés dans le cadre d'une information judiciaire pour abstention de combattre un sinistre. L'agenda judiciaire bouscule l'agenda politique et pousse cet après-midi le chef du gouvernement à défendre son ministre de la Santé, aujourd'hui soupçonné.
Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois, matin, midi, soir, la nuit, le week-end, j'en atteste devant vous. Il est toujours au front, toujours au front.
Ces décideurs ont-ils dissimulé la gravité de la situation? C'est ce que les enquêteurs cherchent aujourd'hui à savoir en saisissant leur matériel informatique à la recherche d'éventuels courriers ou rapports non publics. Tout commence en janvier dernier.
En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée.
À l'époque, l'épidémie frappe la Chine de plein fouet et la France se croit à l'abri. Quelques semaines plus tard, Agnès Buzyn quitte le gouvernement pour briguer la mairie de Paris, visiblement émue. Des larmes qu'elle expliquera par un aveu troublant dans les colonnes du Monde.
Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que le tsunami était devant nous.
Plusieurs collectifs de soignants et de malades se demandent alors si le gouvernement a masqué l'ampleur de la crise sans prendre de mesures adaptées. 90 plaintes ont été déposées, 9 ont été retenues, dont celle du collectif Interurgence.
Est-ce que le 24 janvier ou est-ce que avant, ces ministres ou fonctionnaires savaient que l'épidémie arrivait et est-ce qu'ils ont pris toutes les mesures pour éviter les contaminations? Nous pensons que non, puisque les masques et dispositifs n'étaient pas à la disposition des soignants.
Les masques, la grande polémique de la crise sanitaire. Le gouvernement est accusé d'avoir dissimulé une pénurie en dissuadant la population d'en utiliser.
Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin.
Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif.
Les parlementaires, eux aussi, s'interrogent sur la gestion de la crise. En parallèle de l'information judiciaire de la Cour de justice de la République, députés et sénateurs ont enchaîné les auditions.
Avez-vous menti pour protéger le président de la République dans cette période ?
À aucun moment on ne m'a demandé de mentir.
Le gouvernement assure alors avoir agi du mieux possible, au plus près des recommandations des experts.
Si j'avais dû dire aux Français, on aurait dû vous donner des masques, mais on n'en a pas, je l'aurais dit. Il y a deux choses qui sont différentes, la doctrine et le stock. En l'occurrence, on n'avait pas un stock suffisant, ne serait-ce que pour protéger les soignants. Donc je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Bon. Sur la doctrine, elle est inspirée, je vous le disais, des recommandations scientifiques françaises, européennes, internationales, OMS, et nous avons évolué avant que celle-ci évolue, parce que l'OMS a mis du temps pour bouger.
Les conclusions de ces auditions au Sénat devraient être rendues au mois de décembre. Quant à l'enquête instruite par la Cour de justice de la République, elle devrait durer plusieurs années.
Bon, Bruno, je dis, ça tombe mal.
Ah oui. Ça tombe mal. Évidemment, ces perquisitions tombent mal parce qu'elles tombent au lendemain de l'intervention du président de la République qui demande de nouveaux efforts aux Français. Le couvre-feu, c'est pas rien. Ça va changer nos vies, encore une fois. Et le lendemain, boum, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, l'ancienne ministre de la Santé et surtout l'actuel ministre de la Santé, dont les domiciles sont perquisitionnés.
L'actuel directeur général de la Santé.
L'actuel directeur Salomon. Général de la Santé, complétons le quatuor. Et honnêtement, moi, ça me choque. Non pas que la justice fasse son travail et qu'il y a des plaintes, je crois qu'il y a 99 plaintes, il y en a même une qui vise l'actuel Premier ministre déjà, Jean Castex. Moi, ça me choque parce que Olivier Véran, si on prend le ministre de la Santé, actuellement, quoi qu'on en pense... Mm. Qu'on soit de son bord ou pas.
Il fait le job.
Il fait le job. Il est au front. Il est obligé de se démener pour essayer de face à ce coronavirus dont on nous dit qu'on en a au moins pour jusqu'en 2000, à l'été 2021. Honnêtement, perquisitionné chez lui, là...
Et à son bureau.
Mais j'allais dire... A fortiori, à son domicile. J'imagine comment... Enfin, Olivier Véran, que cherchent les juges ? Les juges cherchent à savoir ce que savaient les ministres lorsqu'ils étaient en fonction au moment, justement, de ce début de l'épidémie. Ils l'ont pas caché. Enfin, je veux dire, ils vont perquisitionner les bureaux, ils trouveront tout
ce... Il faudrait mettre ça entre parenthèses ? Attendre que la crise soit finie ? C'est ça que vous laissez entendre ?
En tous les cas, pour l'actuel ministre de la Santé, la question se pose, à mon avis.
En tout cas, Jean Castex...
Les anciens ministres et premiers ministres, Édouard Philippe, qui n'est plus Premier ministre, sera auditionné le 21 octobre par la Commission à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal. Toutes les procédures avant le cours. Mais là, objectivement, le lendemain d'une annonce où Olivier Véran est en première ligne, je trouve qu'il y a un peu de désinvolture de la part des magistrats.
Ceux qui doutaient de l'indépendance de la justice en sont pour leurs frais.
Non, mais moi, j'en ai pas douté.
En tout cas, Jean Castex, je le disais tout à l'heure, a volé au secours de son ministre en disant, en gros, qu'il ne fallait pas se perdre à vouloir tirer les leçons. Il dit, le moment viendra de tirer les conséquences, mais pour l'instant, l'heure est au combat contre le virus. C'était une façon de dire précisément ce que vous expliquiez à l'endroit
d'Olivier Véran.
Oui, parce
que je pense que ça rend complètement contre-productif tout ce que peut dire le gouvernement aujourd'hui sur en alertant, et parce que ça décrédibilise complètement la parole publique. Alors, je comprends, comme Bruno jeudi, que les juges doivent investiguer, je comprends qu'il y ait des plaintes. Mais l'effet pervers, c'est qu'au fond, on a toujours l'impression qu'on raisonne avec nos connaissances actuelles sur une situation où la connaissance n'était pas la même. Et que donc, toutes les scènes qu'on voit, y compris dans votre reportage, sont catastrophiques pour les ministres en place. Mais il faut se souvenir aussi que sur les masques au tout début, l'OMS disait « c'est pas la peine d'en porter ». Et donc, on voit bien que la difficulté... Et l'autre chose que je comprends, moi, c'est que quand le ministre de la Santé ne veut pas dire aux Français on n'a pas suffisamment de masques, je comprends qu'à un moment, il ait essayé de jouer sur peut-être qu'il ne faut pas en porter parce que ça aurait peut-être créé une panique qui aurait été encore plus difficile. Donc, qu'on demande des comptes une fois que l'épidémie est terminée, qu'on en tire des leçons, qu'on juge ceux qui doivent l'être, ok, mais qu'on le fasse en pleine crise sanitaire, je trouve que c'est un peu irresponsable.
Pensez-vous vraiment que ces plaintes aboutiront à des condamnations? N'est-ce pas facile de critiquer après, Nathalie Moret?
Si, c'est facile de critiquer après, effectivement. Il y a deux choses qui se passent. Il y a d'abord cette instruction-là, qui est de la Cour de justice de la République, et il y a aussi les commissions d'enquête parlementaire. Ce sont deux choses différentes. Les commissions parlementaires, d'enquête parlementaire, elles ont pour but de savoir si l'État a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Comment ça se fait qu'au lieu d'avoir 1 milliard de masques dans les stocks, on n'avait plus, etc. Ce sont deux choses différentes. Moi, je trouve que c'est important que ça se tienne là, vraiment, et que les gens soient auditionnés, etc. La Cour de justice de la République, c'est quand même plus compliqué parce que c'est à chaque fois qu'elle a été saisie, à chaque fois qu'il y a eu des ministres qui se sont retrouvés devant, il y a eu des condamnations qui étaient presque de principe, j'allais dire. En réalité, pour l'instant, jamais un ministre n'a été condamné de façon lourde. Donc, quand on sait ça, l'efficacité de ce qui s'est passé ce matin, juste après là, effectivement, c'est assez dur. Et je trouve que ça s'est vu d'ailleurs parce qu'Olivier Véran était assez marqué cet après-midi. Ouais. On a vu qu'il était assez touché par ce qui s'est passé.
Il y a eu un rapport qui a été fait par Didier Pittet, une mission indépendante nationale d'évaluation qui a marqué un défaut d'anticipation des dysfonctionnements dans la mise à disposition des tests, notamment, et qui a souligné une faiblesse française, notamment de l'administration française. Anne-Claude Crémieux, votre avis sur à la fois ces perquisitions et ces rapports d'évaluation, alors même qu'on est en train de gérer cette crise-là et on en est encore loin d'être sorti puisque le président a évoqué la fin de l'année et l'été.
Alors, à chaque crise, on va chercher des responsables. Moi, je suis absolument intimement convaincue que ce ne sont pas des responsabilités individuelles, c'est des systèmes qui répondent mal à ce que c'est que gérer une crise, c'est-à-dire gérer et gouverner l'imprévisible, ce qui est effectivement extrêmement difficile, mais pour lequel on peut vraiment s'améliorer. De la même manière, ce qu'a montré cette crise, c'est que notre système de santé publique, celui des États-Unis, celui de l'Angleterre, pays considéré pourtant comme des pays au sommet pour la gestion des épidémies, c'était en réalité extrêmement mal défendu. Et là, je pense que réellement, il va falloir tirer les leçons. Ouais. Pourquoi notre système de santé publique a failli? Est-ce qu'on a trop appauvri notre système de santé publique de terrain, un peu comme ce qu'avaient dit les services secrets aux États-Unis après le 11 septembre. Au fond, on s'est déshabillé. Nous n'avons plus des agents de terrain capables de faire de la santé publique, capables d'aller tracer des chaînes de contamination et capables d'aller contrôler l'épidémie. Ce n'est pas seulement la France, c'est aussi l'Angleterre qui se pose ces mêmes questions et les États-Unis.
Parmi les polémiques nombreuses depuis le début de la crise, la question des tests. Là, il y a eu une annonce du président de la République, en tout cas des éléments que je voudrais soumettre à votre avis, Bertrand Guidet, lorsqu'il a parlé des tests antigéniques. Il a dit « Nous sommes en train de gagner notre bataille des délais. Les tests antigéniques qui arrivent, ça va changer quoi? Ce sera plus rapide ?»
Ils sont plus rapides, mais ils sont un peu moins fiables. Donc après, il faut trouver le bon équilibre. Moi, je voudrais revenir à la gestion de l'incertitude avec le reproche que l'on peut faire au gouvernement de surréagir ou sous-réagir. C'est vrai que c'est très compliqué. Vous pouvez être critiqué dans les deux sens, c'est-à-dire un principe de précaution qui s'impose de manière très dure et qui va induire des dépenses qu'on va juger inutiles, et puis à l'inverse, de l'impréparation. Donc il y a cet équilibre à trouver qui est extrêmement compliqué. Et là, il y avait de l'incertitude au mois de janvier. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'on avait quand même des informations relativement fiables, pas venant de Chine, mais venant d'Italie du Nord et après venant de l'Est de la France, et que là, probablement, il y a eu un retard à l'allumage sur la prise d'un certain nombre de décisions.
Et retard à l'allumage encore cette fois-ci, avec un couvre-feu qui est déclenché encore un peu trop tard.
En septembre, il y avait des éléments avant-coureurs qui laissaient à penser qu'effectivement, ça montait, mais ça montait relativement peu. Et effectivement, sur le plateau, les gens disaient... bon, c'est des petits signes, ça va s'arranger. Et donc, effectivement, mettre en regard de ces petits signes des mesures extrêmement dures, ça aurait été extrêmement mal perçu par la population, en disant c'est complètement disproportionné. Et donc, c'est compliqué, mais c'est en général la prévention. La prévention, c'est compliqué. Vous mettez en œuvre des actions de prévention et ça ne se passe pas. Ben oui, mais c'est justement ce que vous avez fait de la prévention. Et donc, c'est vrai que il y a une vraie question en termes de communication et d'acceptabilité des décisions quand elles paraissent disproportionnées par rapport à la situation à un temps donné. Et alors, pour revenir à vos tests, ben oui, effectivement...
Nos tests
On a besoin de tests et on a besoin de tests à réponse rapide, c'est évident. Si vous avez la réponse, même à 48 heures, c'est pas bien.
Résultat en 10 à 30 minutes, selon le président de la République. Alors, avec les tests antigéniques, on verra comment ça se passe. Ils ne sont pas encore là, on ne les a pas encore, les tests antigéniques, si.
Bah, ils sont moins sensibles que les tests PCR, c'est
sûr. Emmanuel Macron l'a dit lui-même hier soir, nos soignants sont très fatigués. Nous n'avons pas de lit en réserve, a dit le président de la République. Le Premier ministre, cet après-midi, a anticipé, lui, le versement des augmentations prévues lors du Ségur de la Santé, l'exécutif au chevet des soignants, car le sujet inquiète. Dans les services, les démissions s'enchaînent et les personnels, vous allez le voir, craquent. Reportage Meyam Zehar et Stéphane Lopez.
Thomas Laurent fait ses derniers cartons. Ce futur ex-infirmier lyonnais a décidé de rendre sa blouse et son appartement.
Là, je déménage parce que je quitte mon hôpital public. Mon hôpital et l'appartement appartient à mon employeur. Alors, j'ai prévu de faire une formation de libraire début 2021. Donc, je ne vais plus travailler la nuit et a priori très peu le dimanche. Et plus finir le soir très tard également.
À 35 ans, il quittera les urgences de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon début novembre. Diplômé depuis 10 ans, il a demandé cet été à être mis en disponibilité. Épuisé par des mois de crise sanitaire et les dysfonctionnements de l'hôpital public.
J'ai décidé de raccrocher la blouse parce que je suis fatigué et de travailler régulièrement en sous-effectif, en sous-équipement, dans des locaux pas du tout à la hauteur, hein, voire délabrés, avec un rythme de travail usant. Régulièrement, on est maltraitant envers les patients, c'est souvent de la maltraitance par négligence, puisqu'on ne peut pas être, on va dire, à l'attention des besoins du patient. Le Covid, on a cru que ça allait nous permettre, on va dire, de mettre en valeur les souffrances de l'hôpital public. Ça a été le cas, mais on va dire que même si une pandémie ne nous a pas donné raison au point de vue du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'espoir pour l'hôpital public.
Une accumulation et un épuisement ressenti par de plus en plus de soignants. Selon une étude de l'Ordre national des infirmiers, 57% des personnes interrogées se disent en burn-out. 40% désirent même changer de métier. Olivier Milleron, membre du collectif Interhôpitaux et cardiologue à l'hôpital Bichat, dénonce un Ségur qui n'a pas tenu ses promesses et a déçu les soignants. Il réclame des effectifs supplémentaires, mieux payés et mieux considérés.
Depuis la rentrée, là, depuis le Ségur, on a eu autant de recrutements. Donc ici, sur le Grand Nord parisien, on a 192 recrutements, mais 192 départs. Donc on reste avec un déficit de personnel qui est le même qu'avant. Sur l'assistance publique, on considère qu'il y a encore plus de 500 postes vacants au moins. Et ça se traduit par des lits fermés, donc de l'impossibilité de soigner les gens.
Des soignants qui appréhendent la seconde vague. D'autant que le souvenir de la première reste traumatisant. Anne-Frédérique est infirmière au bloc opératoire à l'hôpital Cochin. Elle aussi a douté de sa vocation.
Je me suis dit, oui, pourquoi je continue? Parce que j'avais tout donné à l'hôpital, c'est-à-dire que toutes mes compétences, mon énergie, des fois peut-être au détriment de la famille, parce que je me disais, mais non, on a besoin de moi, comme un militaire qui est sur le front. Qui dit je vais tout donner pour aider. Mais il y a un moment, au bout de 20 ans, en fait, on s'essouffle. On a envie de dire non. On a envie de dire non, maintenant, il y a des limites.
Des limites régulièrement atteintes, comme récemment quand l'une de ses collègues craque à l'hôpital.
Elle est arrivée au bloc opératoire, en fait, elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit, ah non, mais moi, je ne pourrais pas faire une seconde vague, je ne suis pas capable. Et là, en fait, c'est ça qui m'a émue, en fait. C'est voir ma collègue excusez-moi. C'est voir ma collègue en fait en souffrance comme ça, et en fait ça m'a fait l'écho de ma propre souffrance.
Une souffrance au travail dont le gouvernement a peut-être pris conscience. Cet après-midi, le Premier ministre a annoncé que la hausse des salaires pour les personnels hospitaliers serait avancée.
Bertrand Guidet.
Alors c'est vrai, nous, il y a un travail qui a été fait dans 21 services de réanimation où plus de 1000 soignants ont été interrogés. Et il y a de l'anxiété, de la dépression dans 30 à 50% des cas. Donc ça, c'est une certitude. Il y a de la fatigue, il y a de l'angoisse et il y a de la dépression. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnels de santé disent vouloir partir, d'être mis en disponibilité. Alors le plan blanc a gelé ça, c'est-à-dire que le plan blanc ne permet pas la mise en œuvre de ces disponibilités. Mais c'est vraiment un couvercle sur la casserole. Parce que dès qu'on va lever le plan blanc, ça, tout le monde va, une grande partie du personnel va quitter le navire.
L'un des arguments du Premier ministre et du Président, c'est de dire de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas recruter pour former un médecin, un réanimateur, un anesthésiste
agaçant,
ou un infirmier. Oui. Il faut du temps. Est-ce que ça, c'est un argument qui pèse, selon
vous ? Non, mais bien sûr. Mais sauf qu'on est, on est très nombreux à tirer la sonnette d'alarme depuis des années et des années. Oui. Ça fait 10 ans que l'hôpital public est essoré. Et donc, ça fait 10 ans qu'il y a la productivité avec une activité qui augmente pour obtenir des financements pour l'hôpital et moins de personnel. Donc, voilà. Donc, absolument. Donc, ce
comment
qui est un peu agaçant, c'est de ne pas avoir été entendu.
Bertrand Guidet, comment on va faire fin octobre ?
Ah ben, fin octobre, on va être en grande difficulté. Ce qui justifie les mesures qui ont été annoncées et discutées sur ce plateau, c'est qu'il faut en même temps accueillir les malades non Covid pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour ces malades. On les a constatés au printemps. Et au sein des personnes Covid, de pouvoir mettre en œuvre les techniques adaptées à leur état. Et donc, sur un hôpital exsangue.
Ça vous inquiète ce qui arrive ou pas ?
Mais les services de réanimation l'hiver sont pleins.
Oui.
Donc, vous rajoutez 20% ou 30% de malades Covid, ça déborde. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc, il y aura des pertes de chance incontestablement pour les malades.
On peut d'ores et déjà le dire.
Mais bien sûr.
Très vite, Françoise Fressoz, avant d'aller aux questions.
Souvenez-vous du Ségur de la santé, il y avait un investissement massif, 19 ouais. milliards d'investissements dans le système de santé, 8 milliards d'euros de revalorisation des salaires. Et là, ce qu'on réalise, c'est qu'au fond, le gouvernement souvent fait des annonces spectaculaires et on s'aperçoit qu'au fond, la réalisation ne marche pas parce que c'est impossible. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est le désinvestissement du service de santé sur les 10 dernières années et qu'on ne peut pas rattraper. Et que donc, là aussi, on est à l'os entre les annonces gouvernementales et la réalité des faits. Et l'épidémie, elle renvoie aussi le gouvernement à ça.
On rappelle que le Premier ministre a annoncé l'anticipation du versement des sommes qui doivent être perçues par les personnels soignants. Ça devait être versé un peu plus tard. Ça sera versé avant la fin de l'année.
En mars. Hein. Mais c'était une bêtise. En termes, je ne sais pas qui à Bercy a pondu ce truc-là. Le faire en deux temps, c'est-à-dire au mois de mars, c'est-à-dire après l'hiver. Alors
90 euros en septembre et 93 euros.
Alors qu'on savait que l'hiver serait difficile à passer. C'est incompréhensible.
Et nous venons maintenant à vos questions. J'accueille 6 de mes petits-enfants à partir de vendredi soir. Dois-je refuser leur venue ? Dans ce cas, quelle solution de garde pour les parents ? Anne-Claude Crémieux.
Non, mais c'est une excellente question, mais ouais. Effectivement, bon, c'est un vrai problème. C'est qu'effectivement, cette personne, si elle est à risque, je ne connais pas son âge, ouais. Eh bien, il faut prendre des précautions. Si elle n'a pas fait le Covid, il faut prendre des précautions. Et c'est clair que d'être au contact de ses 6 petits-enfants lui fait prendre des risques évidents.
Ça dépend de l'âge ou pas ? Souvent, sur ce plateau, oui, on a expliqué que quand ils étaient plus petits, ouais. ils étaient moins vecteurs du virus.
Oui, mais bon, ils sont moins vecteurs, comme vous dites. Mais bon, toutes les données que nous avons laissent penser qu'ils peuvent être D'accord. vecteurs. Donc, c'est vrai qu'on ne peut absolument pas garantir à cette personne qu'elle ne prend pas de risque. De fait, elle prend un risque. Bon, chacun ses responsabilités, mais je ouais. pense qu'effectivement, dans le contexte actuel où le virus circule de manière très importante, il faut en être conscient, c'est un vrai risque.
Peut-on pratiquer la randonnée en groupe ? Anne-Claude Crémieux.
Alors, la randonnée, c'est pas mal parce qu'on est à l'air libre. Donc, ouais. Si vous voulez, comme aération, je pense que c'est plutôt assez idéal. Et puis, en randonnée, on peut garder des distances et voire même porter un masque.
Et nous, le président de la République nous a dit qu'il fallait aérer hier soir. Hein.
Oui, c'était d'ailleurs une des surprises de cette intervention, se laver les mains, aérer. Et c'est vrai qu'en privé, il explique qu'il assume totalement cette prise de parole qui a pu apparaître comme une forme de déprésidentialisation. Et lui, il dit au contraire que c'est un tout. Il faisait des déclarations sur un ton très martial pendant la première vague. Et là, cette fois-ci, il explique qu'il assume de descendre dans l'intimité de la vie parce que le virus s'installe dans nos vies. Et c'est ce qui fait qu'il s'est permis lui-même de donner les conseils comme un ministre de la Santé. Mais au fond, dans cette deuxième partie de crise, on voit qu'Emmanuel Macron, il a pris les commandes et toutes les commandes.
Depuis 6 mois, on devrait gérer ce qui est devenu prévisible. Où sont les lits? Où est le personnel? Et pourquoi en sommes-nous là? C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais pour former un réanimateur, il faut 10 ans. Oui. Pour former une infirmière, il faut au minimum 3 ans. Pour qu'elle soit compétente en réanimation, il faut un peu de formation sur le tas. Je rappelle qu'en France, il n'y a pas de formation spécifique pour les infirmières de réanimation, ce qui est pourtant le cas dans pas mal de pays européens, aux États-Unis, au Canada, etc. Il faut du temps.
Devra-t-on être 6 à table à Noël? Un peu de crémieux.
Alors, ouvrez les fenêtres, comme dirait le président.
Mais pas plus de 6 à Noël, on verra d'ici là. On en fera d'autres décès dans l'air sur le sujet. Et après, si tout cela ne fonctionne pas, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a un scénario d'après, puisque le reconfinement total est exclu?
Ça va tellement vite. Rappelez-vous, il y a un mois, on était tous sur le plan de relance. Oui. La maladie était quasiment... Enfin, elle était toujours là. On voyait qu'il y avait un certain rebond. Mais je veux dire, tout l'exécutif était sur le plan de relance, les 100 milliards qu'on met partout, comment on fait pour être au plus près, justement, des territoires pour que ça bénéficie aux petites PME, etc. Un mois plus tard, on en est à se demander si on va ouvrir les fenêtres à Noël. Je veux dire, donc... Non, mais ça veut dire que... non, mais objectivement, tout va très, très vite. La vie d'après, comme le disait Bruno, là, on vient de mettre le couvre-feu dans 9 métropoles. Après, on peut le mettre dans plus de villes. Et puis aussi, on peut limiter les déplacements. Il y a d'autres choses. Mais là, pour l'instant, attendons de voir déjà si dans 15 jours, ça va mieux.
Les étapes d'après, ce que nous disait Anne-Claude Crémieux tout à l'heure, c'est de passer de 21h à 18h, puisque c'est ce qui avait été fait, vous nous le rappeliez, en Guyane. Mmh. Et une politique de test et
je
de traçage... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui.
Je rappelle aussi que ça a marché en Guyane. Ouais. Donc voilà, il y a quand même une perspective. Si réellement ces mesures sont appliquées, je pense que tous les Français ont montré qu'ils étaient capables d'appliquer des mesures, on l'a vu pendant le confinement, ça devrait marcher.
Et une politique de test et de traçage efficace, n'était-ce pas aussi une option envisageable, Anne-Claude Crémieux?
C'était une option envisageable, mais il y a déjà longtemps. Et effectivement, le temps passe vite. C'est particulièrement efficace au tout début. D'ailleurs, on l'a vu, il y a des pays qui ont réussi à une stratégie d'élimination du virus grâce à une stratégie de test et de traçage extrêmement efficace, la Nouvelle-Zélande, mais aussi tous ces pays asiatiques qui avaient été touchés par le SRAS. Aujourd'hui, il faut continuer à tester, il faut continuer à isoler, parce que ça diminue la quantité de virus qui circule, mais le contrôle de l'épidémie est évidemment un peu derrière nous. C'est ça qui explique que les mesures barrières sont particulièrement importante.
En plus du couvre-feu, pourquoi ne pas avoir imposé la règle des 100 km comme lors du confinement pour être efficace?
Parce que ça fait beaucoup, hein.
Oui, c'est, oui, c'est
non,
vrai.
Non, je pense que ça fait beaucoup. Non, je pense que l'un des enjeux là, de la période, c'est qu'au fond, le président de la République rentre dans l'intimité chez les Français. C'est-à-dire, il leur dit pas plus de 6 personnes à table. Donc, je pense qu'il faut y aller délicatement. Parce que
il a l'esprit, ça, le chef de l'État, l'acceptabilité et le fait que il faut prendre la parole au bon moment, ce que disait tout à l'heure Bertrand Guidet, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, oui, on n'aurait peut-être pas été aussi réceptif parce que la peur était peut-être moins
là,
parce que
l'épidémie était moins repartie. Il l'explique, il dit qu'au fond, il a été élu sur les affaires économiques et sociales et que maintenant, la crise sanitaire l'oblige à réfléchir à la façon dont on fait nation, c'est-à-dire comment est-ce que le citoyen, qui est très attaché à ses droits individuels de liberté, arrive à en fait, se comporter par rapport aux autres et à refaire la citoyenneté. Mais c'est quelque chose de très compliqué à expliquer, en fait.
Le Ségur n'a pas été à la hauteur. N'est-il pas urgent de mettre vraiment les moyens humains et financiers pour la santé ? Si ?
Oui, bien sûr. Mais ça prend du temps.
Le couvre-feu est-il une mort annoncée des restaurants, comme l'a dit le chef Michel Sarran ce matin ?
Certains vont y laisser, vont fermer boutique, ça c'est certain, et s'en sortiront ceux qui seront les plus solides, ceux qui surmonteront la crise, mais ça va faire beaucoup de dégâts.
Quelles sont les mesures face au Covid qui seront prises dans 15 jours et qu'il aurait fallu prendre aujourd'hui ?
C'est ce type de mesures, au couvre-feu, mais peut-être à 22h, 23h.
Bon, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée à 22h25, après donc le couvre-feu, mais la mesure sera appliquée à partir de demain soir. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'était à vous.